dans votre vie qui pourra empêcher Dieu d'exaucer vos prières? Ou avez-vous arrêté de prier parce que Dieu n'avait pas répondu immédiatement à vos prières? Je vous invite, en regardant le livre de Daniel, en fait le chapitre 9 du livre de Daniel, eh bien, nous avons devant nous un bel exemple. Ce n'est pas la plus longue prière de la Bible, c'est une des plus longues. La plus longue se trouve dans Néhémie. Mais dans ce chapitre, eh bien, nous avons devant nous un bel exemple de prière appropriée, provenant d'un homme qui a vécu une vie qui plaît à Dieu. Et nous trouvons dans ce chapitre quatre choses qui caractérisent celui qui possède un véritable esprit de prière. Et ça va nous permettre de voir ce matin où nous en sommes rendus dans notre vie de prière. Parce que je vais le répéter à la fin pour clôturer mon message, mais il faut se rappeler que Dieu agit dans la vie du chrétien uniquement en fonction des prières qui lui sont adressées. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu parce que Dieu agit uniquement en fonction des prières qu'il reçoit de la part de ses enfants. On va prier, prions. Seigneur, nous nous présentons devant celui qui est souverain. Celui, Seigneur, qui est partout. Celui qui entend tout. Celui qui voit tout. Seigneur, tu connais nos conditions ce matin. Tu connais notre condition financière, notre condition matérielle et surtout notre condition spirituelle. Seigneur, qu'à travers la prière de Daniel, nous puissions entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église. Et s'il y a des choses que nous devons remettre en question, que nous puissions le faire en toute humilité, là où nous sommes assis ce matin. Et que si nous ressemblons à Daniel dans notre vie de prière, eh bien que nous puissions te louer et te glorifier et te demander de continuer à nous soutenir dans cette vie, dans cet esprit de prière dans lequel nous sommes animés. Seigneur, bénis ta parole ce matin et réponds aux besoins de tous et chacun ici présents dans cette salle. Je te le demande pour la gloire de ton nom. Et c'est en Jésus que je t'ai prié. Amen. La première chose qui caractérise une prière qui plaît à Dieu, c'est qu'elle est fondée sur les Écritures. Lorsque nous analysons la prière de Daniel, et ce matin on va voir juste les versets de 1 à 23, c'est uniquement la prière de Daniel. Lorsque nous analysons la prière de Daniel, nous constatons que sa prière trouve souvent son inspiration dans les Écritures. On va lire à partir des trois premiers versets. « Durant la première année où Darius, fils d'Assuérus de la dynastie des Mèdes, devint roi sur le royaume de Babylonien, moi, Daniel, je consultai les livres saints, c'est-à-dire les parchemins, les rouleaux qu'il avait avec. Je compris alors la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine. Je me mis à jeûner et vêtu d'habits d'étoffes grossières, la tête couverte de cendre, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le prier et lui adresser des supplications. Darius le Mède, qui fut le roi qui régnait sur les Babyloniens dans le cadre du plus grand empire, Médo-Perse, dirigé par Cyrus. Nous avons entendu parler de cet homme pour la première fois au chapitre 5, lorsque nous avons étudié ensemble le chapitre 5, nous avons entendu parler pour la première fois de cet homme après la chute de Babylone qui eut lieu environ 539 avant Jésus-Christ. C'est aussi le même roi au chapitre 6 qui a écrit le décret interdisant quiconque pour une période de 30 jours d'adresser une prière à un dieu ou à un homme quelconque excepté à lui-même sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. Daniel n'a pas changé sa façon de prier pour autant. Il a continué à prier le Dieu qui a créé la terre et le ciel, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et, eh bien, résultat de sa fidélité envers Dieu, il a été jeté dans la fosse aux lions, malgré les efforts du roi Darius pour contourner sa propre loi, parce qu'il voulait sauver Daniel. Mais c'est Dieu qui a sauvé Daniel. Et Darius va ordonner que toute l'étendue de son royaume, on éprouve de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car, c'est ses paroles, il est le Dieu, ça vient de la bouche d'un païen, il est le Dieu qui subsiste éternellement. Si dans les chapitres précédents, nous avons vu que Daniel était un homme engagé dans la prière, nous découvrons au chapitre 9 que Daniel prenait quand même le temps de méditer des portions des Saintes Écritures qui étaient disponibles à son époque. Nous sommes habitués au 21e siècle à trouver facilement la parole de Dieu dans plusieurs versions différentes, mais à l'époque de Daniel, et à l'époque des persécutions, tout devait être copié à la main, et vouloir obtenir une copie des textes bibliques aurait été extrêmement coûteux et difficilement réalisable. Nous devons nous rappeler que les Juifs avaient été déportés à Babylone et que leur accès à la parole de Dieu devait être également limité. Nous pouvons supposer que la haute position que Daniel occupait l'a aidé à avoir accès plus facilement à ses documents, à ses rouleaux sacrés pour lui-même et pour la grande communauté juive de Babylone. Frères et sœurs, la déportation des Israélites à Babylone est une très bonne leçon que nous pourrions appliquer aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit. C'est un jugement que Dieu a déposé sur son peuple après l'avoir averti au tout début dans Deutéronome, après l'avoir averti finalement des conséquences que son peuple subirait s'il abandonnait son Dieu pour se tourner vers les idoles. Et je vais ouvrir une parenthèse ici parce que je ne me souviens pas si c'est en 2010 qu'on est allé à Paris, Michel. En se promenant sur une grande artère de Paris, on a rencontré une famille juive et un vieux juif qui avait changé son nom pour ne pas se faire persécuter encore une fois. Il avait peur que ça revienne, les persécutions contre les juifs. Et il avait pris un nom français. Mais en parlant avec lui, en essayant d'ouvrir des portes pour parler du Seigneur, parce que quand il nous a dit qu'il était juif, ça nous intéressait davantage et on a parlé avec lui. Et il dit, mon vrai nom, je vais vous dire mon vrai nom, c'est Salomon. Il n'a pas voulu me donner son nom de famille, mais c'est Salomon. Et là, il m'a donné son nom français que j'ai oublié. Mais j'ai parlé de l'Ancien Testament, j'ai parlé du peuple juif. Et là, il m'a repris, mais vraiment sèchement. Il m'a dit, écoute bien, moi, je fais partie de la génération des personnes qui ont été envoyées dans des camps d'extermination. Il dit, et là, il monte sa manche, Jean-Michel. Et là, il me montre son numéro d'Auschwitz. Il dit, moi, les histoires de Dieu, c'est des foutaises. Moi, là, les histoires de Dieu, j'en ai rien à cirer. Et il dit, ma génération, on est complètement devenu athée par rapport aux Écritures. Là, il était avec sa famille, il y avait des petits-enfants qui étaient avec lui, sinon je lui aurais dit, Salomon, ça serait peut-être le temps que tu recommences à lire les Écritures. Parce que si vous avez été dispersés partout sur la terre, si vous avez été persécutés, c'est suite à une promesse que Dieu vous a faite dans l'Ancien Testament, que si vous vous tourniez vers des idoles et vous détournez de lui, vous seriez dispersés partout sur la terre et vous seriez pourchassés, persécutés, voire presque exterminés. Je lui aurais dit. On verra ça un autre jour. Maintenant, c'est Dieu, c'est une prophétie aussi, c'est que Dieu met dans le cœur des Juifs de revenir en Israël. Ça fait partie des prophéties bibliques. Et on le voit. Les Juifs, malgré la dangerosité qui se passe en Israël, malgré les dangers, les gens qui sont d'origine juive veulent retourner. Il y a comme un appel intérieur qui les pousse à retourner en Israël. Et ici, eh bien, Daniel, dans sa prière, va rappeler ces choses. Et il va rappeler aussi que, par extension, ça peut arriver aussi au Nouvel Israël, c'est-à-dire à la branche qui est greffée après l'olivier, c'est-à-dire à l'Église. Même si nous ne connaissons pas tous les manuscrits dont Daniel disposait, le verset 2 nous révèle qu'il lisait les écrits de Jérémie et que le passage auquel il faisait référence se trouve dans Jérémie 25, 11, 12. Dans ces deux versets, le Seigneur indique au prophète Jérémie le temps que durerait la déportation des Juifs à Babylone. Il est écrit que tout ce pays deviendra un champ de ruines et pendant 70 ans, toutes ces nations seront soumises au roi de Babylone. Quand ces 70 ans seront achevés, je punirai le roi de Babylone et son peuple, déclare le Seigneur. J'interviendrai contre leur pays et j'en ferai un désert sinistre pour toujours. Et c'est vrai que même si Saddam Hussein a essayé de reconstruire une nouvelle Babylone, eh bien, il est mort avant de pouvoir mettre plusieurs pierres sur le chantier, puisqu'une promesse de Dieu, c'est que la Babylone ne sera plus jamais reconstruite. Au moment où Daniel lit ce passage, il réalise que les 70 années sont maintenant terminées. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître les Écritures. Il y a des choses qui se passent devant nous qu'on ne voit pas, mais qui sont écrites dans les Écritures, qui ont été prédites dans les Écritures. Et Daniel, sa force, c'est qu'il lisait les Écritures. Et en lisant les Écritures, il réalise que les 70 ans sont maintenant terminés et que Babylone s'apprête à tomber comme prévu parce que Dieu l'a prophétisé. Cela va inciter Daniel à tourner sa face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et lui adresser des supplications a jeûné vêtu d'habits en étoffe grossière, la tête couverte de cendre. Le jeûne, le sac et les cendres montrent avec quelle intensité, avec quelle humilité, Daniel est venu se présenter devant le Dieu, devant son Dieu dans la prière. Daniel avait peut-être lu le verset 9 du chapitre 29 du livre de Jérémie, où le Seigneur promet que les Juifs retourneraient un jour à Jérusalem. Cependant, le contenu de la prière que nous allons lire ensemble, le contenu de la prière de Daniel indique que Cyrus n'avait pas encore publié son décret permettant le retour des Juifs lorsque Daniel va faire cette prière, la prière que nous allons voir. Ce que je veux simplement souligner ici, c'est que suite à la méditation de la parole de Dieu, c'est dans celle-ci que Daniel va trouver sa source d'inspiration pour prier. Nous devrions nous aussi être poussés à prier suite à ce que nous avons médité et compris dans la parole de Dieu. L'étude biblique et la prière vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre, et l'étude de la parole va susciter en nous un vif désir de prier. Moi, ça m'arrive, en tout cas, je lis un passage, je médite le passage, et là, il y a des choses qui me viennent, et je remercie Dieu, ou je prie Seigneur, ou je demande pardon au Seigneur, parce que je suis confronté à sa parole, et ça va être soit une prière qui va demander le pardon, ça va être soit une prière qui va louer le Seigneur ou adorer le Seigneur, parce que je vois que c'est une réalité dans ma vie. Mais les Écritures et la prière et la lecture, la méditation des Écritures sont intimement liées. On ne peut pas prier, en tout cas, sous l'inspiration des Écritures, si on ne lit pas les Écritures. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, qu'on ne lise pas les Écritures, puis qu'on prie quand même, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une profondeur dans la prière qui est différente. Versets 4 à 15. Lorsque nous commençons à examiner la prière de Daniel, nous constatons que le thème principal de sa prière, c'est la confession des péchés. Il y a soit 72% de la prière de Daniel qui est consacrée à la repentance. Pas nécessairement à la repentance pour lui, mais à la repentance pour son peuple. Et verset 4, la première partie, il dit « Je prie l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Un véritable esprit de prière révèle dans la confession, dans la prière de Daniel, comme j'ai dit, que la repentance pour lui, c'est important. Hey, est-ce que je suis clair devant toi, Seigneur? Moi, je me présente devant toi, c'est facile de te louer, c'est facile de t'adorer, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêcherait finalement d'écouter ces louanges comme étant une action de grâce? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans ma vie qui t'empêcherait de recevoir cette prière d'adoration que je veux te donner, que je veux m'adresser à? Alors, il dit ici, verset 4b, « Ah Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui maintiens ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'obéissent à tes commandements. » Frères et sœurs, vous savez ce qui arrive aujourd'hui? C'est qu'on en parlait la semaine passée dans l'église où j'étais avec les anciens. C'est que souvent dans l'église aujourd'hui, on fait une coupure avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu grand et redoutable, mais dans le Nouveau, c'est un bon Père qui nous aime, qui est compatissant et on oublie tout le reste. Mais si on se fie à la parole, le Dieu dans l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la Bible qui nous dit. Sauf que la venue de Jésus nous présente Dieu simplement sous une autre facette, mais elle n'élimine pas l'ancienne. Elle fait que la compléter. C'est vrai que Dieu est un Dieu qui est grand, qu'il est puissant, qu'il est redoutable, mais en même temps, c'est un Dieu de grâce. Et la grâce de Dieu, elle ne vient pas à travers Jésus. Même si la vérité et la grâce sont venues par Jésus, Dieu a déjà exercé sa grâce dans l'Ancien Testament. Sinon, le peuple d'Israël n'existerait plus. Mais il exerçait sa grâce auprès des nombreuses fois où le peuple d'Israël s'est détourné de lui. Et ça, c'est important pour nous parce que ça nous empêche souvent. On entre tout de suite, on se présente devant Dieu, on entre tout de suite avec un esprit d'adoration et de louange sans prendre le temps de laisser le Saint-Esprit nous examiner pour voir si notre louange va traverser le plafond de notre chambre, si notre adoration va traverser le plafond de notre chambre. Quelle a été notre journée? Est-ce qu'elle a été pour la gloire de Dieu? Si notre journée n'a pas été la gloire de Dieu, il y a peut-être des choses qu'on doit confesser. Si Dieu n'a pas été notre vie durant la journée, si Dieu n'a pas été notre passion durant la journée, il y a peut-être des choses qu'on doit confesser à Dieu. En tout cas, entre autres, dire « Seigneur, je te demande pardon parce que tu n'as pas été le premier du tout dans ma vie aujourd'hui. » Ça, c'est quand même logique. Il ne faut pas que Dieu non plus arrive le dernier dans la journée parce qu'il me reste 2 minutes que j'ai rien à faire dans mon agenda et que je lui consacre 2 minutes pour le prier, quoi. Mais dans toute humilité, c'est une leçon d'humilité qu'on va recevoir aujourd'hui de la part de Daniel. Je ne suis pas ici pour vous condamner, je vais vous lire uniquement la prière de Daniel, et c'est le Saint-Esprit qui va vous éclairer. Mais une bonne leçon, c'est, écoute, c'est vrai que Dieu est devenu notre Père dans le Nouveau Testament, que Jésus en a longuement parlé, mais en même temps, il demeure ce Dieu redoutable, grand et puissant, qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Daniel commence sa prière en proclamant qu'il est d'accord avec les vérités qui décrivent parfaitement bien le caractère de Dieu. « Ah, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui maintiens ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Frères et sœurs, Dieu est un grand, impressionnant, fidèle, aimant, bon, ayant un discernement inégalé. Il est une source de bénédiction pour ceux qui lui appartiennent et qui obéissent à ses commandements. Daniel continue en étant d'accord concernant ses propres péchés et ceux de son peuple. Il se présente devant Dieu avec un esprit de repentance. Regardez versets 5 et 6. Il ne dit pas « Ton peuple t'a désobéi, nous avons désobéi. » Et frères et sœurs, c'est très important dans l'esprit d'individualité dans lequel on vit aujourd'hui, de ne pas faire de coupure quand on se présente devant Dieu, avec nous et avec l'Église. On dit souvent que l'Église est une famille. Eh bien, dans nos prières, la famille doit être incluse. Daniel l'a très bien compris. Il n'y a rien à se reprocher, Daniel. Mais il fait partie de la famille de Dieu et il va prendre le blâme. Parce que la famille de Dieu, ce n'est pas un individu, c'est un ensemble d'individus. L'Église, ce n'est pas un individu, c'est un ensemble d'individus. Et regardez ce qu'il dit. « Nous avons désobéi, nous avons péché, nous avons été méchants et rebelles. Nous, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs et les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. » Vous dites peut-être, est-ce que Daniel avait fait tout cela? Non, mais il s'est simplement inclus dans la prière pour son peuple. S'il ne s'inclut pas puis s'exclut en partant, comment peut-il prier pour son peuple? Daniel reconnaît que Dieu est juste et qu'Israël mérite d'être couvert de honte à cause de son infidélité envers lui. Quelles actions infidèles avait-il commis pour que Dieu se mette en colère contre eux? La pire, c'était celle d'avoir abandonné Dieu et offert des sacrifices à d'autres dieux. Dans les versets 9 à 15, regardez ce que Daniel fait dans les versets 9 à 15. Daniel confesse que dans sa bienveillance, le Seigneur leur a pardonné leur désobéissance. Il ne reste pas avec la faute. Il sait que Dieu est un Dieu qui pardonne. Il sait que Dieu a pardonné leur désobéissance. Le peuple avait désobéi au Seigneur et avait refusé de le suivre. Le Seigneur n'avait donc pas appliqué les conséquences pour lesquelles il les avait prévenues concernant une désobéissance possible. Versets 9 à 15. Auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde et le pardon. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle! Le pardon et la miséricorde ne se trouvent pas auprès des hommes. Le pardon et la miséricorde se trouvent auprès de Dieu. Car nous avons été rebelles envers lui. C'est des mots extrêmement forts hein, qu'on n'entend pas dans nos églises aujourd'hui. C'est des paroles extrêmement fortes. Extrêmement fortes, pardon, c'est féminin. Il continue, « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous pour ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. » C'est pas moi qui parle, c'est Daniel. Alors, à cause de nos désobéissances, les malédictions inscrites dans la loi de Moïse, ton serviteur, se sont déversées sur nous. Il continue, tu as accompli les paroles que tu avais prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Tu as fait venir sur nous à Jérusalem des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tous ces malheurs nous sont arrivés et pourtant, nous, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons même pas imploré pour t'apaiser. Nous ne nous sommes même pas détournés de nos péchés et nous n'avons même pas été attentifs à ta vérité. Hey, ça prend, c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit d'humilité hein, pour dire ces choses-là. C'est pourquoi tu n'as pas manqué de faire venir sur nous ces malheurs, car Seigneur notre Dieu, tu es juste dans tout ce que tu fais. Mais nous n'avons pas écouté tes instructions. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, par ta force irrésistible. Tu as acquis une renommée qui subsiste encore aujourd'hui, mais nous, nous avons désobéi et nous sommes coupables. Frères et sœurs, il existe plusieurs endroits dans la loi de Moïse où Dieu met son peuple en garde contre les malédictions qui leur arriveraient s'ils le rejetteraient et le désobéissent. Ils ont été avertis d'avance et on est avertis d'avance à travers les Écritures. Si vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous allez voir que c'est un beau chapitre pour argumenter avec ceux qui disent que suite à la chute, l'homme a perdu son libre arbitre puisque Dieu dit « Je place devant toi, je te laisse le choix. Tu m'obéis, c'est la bénédiction. Tu me désobéis, c'est la malédiction. C'est toi qui choisis. Mais si tu choisis la bénédiction, voici les conséquences. Et si tu choisis la bénédiction, regarde bien ce qui va t'arriver. Regarde les bénédictions qui t'attendent. » Dans la Deutéronome 28, les malédictions étaient relativement mineures au tout début pour ensuite augmenter en gravité, si la nation continuait à désobéir au Seigneur. L'histoire de la nation d'Israël montre que Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, en dispersant son peuple sur toute la surface de la terre et en permettant la destruction de Jérusalem. Frères et sœurs, Dieu a fait la même chose avec l'Église en Afrique. L'Église s'est repliée sur elle-même. L'Église a perdu de vue ses doctrines de base. À l'époque de l'apôtre Paul, l'Afrique du Nord était à 98% chrétienne. Elle est maintenant à 2% chrétienne. Tout le reste, c'est les musulmans qui envahissent l'Afrique du Nord. Dieu, frère, c'est ça, si on est d'accord pour dire qu'on est le peuple de Dieu, bien, il ne faut pas voir juste les bons côtés. Il y a aussi les promesses qui accompagnent aussi le peuple de Dieu, les mêmes qu'Israël, les mêmes. Nous, on dit, ah, ça serait-tu dommage que telle religion s'installe en Belgique, nos belles églises. Mais Dieu n'en a rien à cirer de ça. Hein? Le nettoyage de l'Église qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Le nettoyage qu'il a fait dans son peuple il y a plusieurs années, plusieurs siècles, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Maintenant, c'est le temps pour Dieu de rassembler son peuple. Et je pense que la prière, pour moi, en tout cas, c'est pas que je pense, mais je suis convaincu que cette prière qui est dans le livre de Daniel est un avertissement pour l'Église aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Delain, hein? Moi, je me promène dans les églises. Ça se passe partout dans toutes les églises en Belgique. On n'est pas l'exception. C'est une époque où l'Église est fort instable à tous les points de vue. À tous les points de vue. L'histoire de la nation d'Israël montre que Dieu a fait exactement ce qu'il avait dit et qu'il ferait en dispersant son peuple sur toute la surface de la terre et en permettant la destruction de Jérusalem. Et nous pourrions résumer cette première partie de la prière de Daniel en disant qu'il a confessé non seulement que le Seigneur Dieu est saint, fidèle et juste, mais qu'il avait été compatissant envers Israël et qu'il lui avait pardonné ses nombreuses infidélités. Cependant, ils avaient tellement péché contre lui, et ce dans tous les domaines, que la honte qui leur était reprochée était bien méritée et que le Seigneur était juste en respectant ses promesses concernant les malédictions qui étaient tombées sur Israël. Nous pouvons voir jusqu'à quel point dans sa prière, le cœur de Daniel était touché par tout le mal qui régnait à travers la prière de repentance qu'il venait de confesser. Sa prière montre que la confession concerne la foi, à la fois les péchés personnels et par association ceux des groupes auxquels vous appartenez, votre propre famille, votre propre Église et ceux de votre pays. En suivant l'exemple de Daniel, nous pouvons intercéder au sujet de notre propre pays en disant « Seigneur Dieu, toi qui es grand et redoutable, tu es fidèle à ta parole et tu ne renies jamais tes promesses. Nous avons désobéi, nous avons péché, nous avons été méchants et rebelles en nous détournant de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs qui nous ont parlé en ton nom. Père, tu es miséricordieux et compatissant, tu nous as accordé ta miséricorde et ta grâce, même si nous sommes devenus misérables. Seigneur, nos cœurs se sont refroidis. Et nous nous sommes détournés de toi. Nous avons abandonné les enseignements de ta parole pour enseigner plutôt à nos enfants les pensées futiles des hommes comme étant la vérité. Nous recherchons le plaisir plutôt que la sainteté et le compromis plutôt que la justice. Nous avons toléré que le mal s'appelle bien en persécutant ceux qui s'appliquent à vivre comme tu le demandes. Ô Seigneur, tu es fidèle et juste parce que nous trouvons notre pays dans sa détresse actuelle et tu es miséricordieux en faisant en sorte que la situation n'est pas encore plus désastreuse qu'elle ne le devrait. Père, même l'Église que tu as appelée à proclamer ton nom est devenue froide et a abandonné son premier amour. Nous n'avons pas réussi à atteindre notre communauté pour ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes trop occupés à nous divertir à travers toutes sortes d'activités futiles et à assurer notre avenir en dehors de toi, plutôt que d'utiliser les dons que tu nous as donnés pour t'observer et faire progresser ton royaume. Seigneur, si nous confessons que nous avons cherché à faire les choses en suivant la sagesse du monde, au lieu de nous présenter devant toi dans un esprit d'humilité, en te demandant de nous donner ta sagesse, pour nous appliquer à faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés à ta manière et non pas à la manière des hommes. Seigneur, nous ne sommes pas venus vers toi avec un esprit bien disposé et un cœur brisé dans la prière. Père, tu es juste dans les malédictions actuelles que nous observons autour de nous, au quotidien dans ce monde. Et c'est le jugement qui reste à venir. Ça, c'est ma prière ce matin. Et c'est le modèle de la prière de Daniel que l'Église pourrait adresser à Dieu dans la repentance pour notre monde aujourd'hui. Cependant, Daniel ne s'est pas limité ni arrêté à la confession. Nous devrions suivre son exemple en suppliant Dieu de manifester encore sa patience, parce que nous comptons toujours et encore sur son amour infini. Regardez les versets 16 à 19. Au verset 16, dans la deuxième partie de sa prière, Daniel continue à confesser, puis il commence à adresser humblement et sincèrement une demande à Dieu. Seigneur, verset 16, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos ancêtres, les nations qui nous entourent couvrent d'insultes Jérusalem et son peuple. Verset 17 révèle cette demande. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et à cause de ton amour, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Daniel veut que Dieu restaure le temple de Jérusalem qui a été détruit par Nébuchadnezzar et qui a été laissé à l'abandon. La demande de Daniel n'est pas pour lui-même, puisqu'il est maintenant très vieux et qu'il ne verrait pas un temple être entièrement reconstruit, même si on avait commencé à le reconstruire le jour même où il adresse cette demande au Seigneur. C'est vers la fin de sa vie, hein, il est quand même fort âgé quand il prie. Pourquoi Daniel fait-il cette demande au Seigneur? À cause de ses grandes compassions. Cela devient encore plus clair au verset 18. Regardez le verset 18. « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde attentivement. » C'est intéressant de voir comment la créature, ça dure. C'est comme si Dieu avait les deux yeux fermés et les deux oreilles bouchées. Alors que Dieu entend tout et que Dieu voit tout, qu'il n'y a rien qui lui échappe. C'est intéressant hein, de voir l'enfant de Dieu, comment il parle à son Dieu. Je ne suis pas en train de le critiquer. Hein, c'est pour vous montrer que Dieu est capable de s'abaisser au niveau de sa créature et d'être capable d'entendre ces choses-là. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les oreilles, ouvre les yeux et regarde attentivement. Vois l'état de dévastation de notre ville, cette ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice ou de nos mérites que nous te présentons nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions et de ton amour infini. Daniel reconnaît clairement qu'il n'y a rien que lui-même ou qui que ce soit d'autre pourrait faire qui donnerait un certain mérite ou qui rendrait digne cette demande qu'il adresse à Dieu. Sa demande ne vise donc pas la gloire de la nation d'Israël, mais repose entièrement sur les grandes compassions de Dieu, sur son amour infini, qui sont un excellent endroit où nous pouvons placer notre confiance. Les paroles que Daniel prononce dans sa prière au verset 19 révèlent sa grande préoccupation pour Dieu et la grande place que Dieu occupe dans sa vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. Par égard pour toi dans ton amour, agis et ne tarde pas en faveur de cette ville, car ton nom, mon Dieu, est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et vous savez ce qui se cache derrière cela? Et ça devrait être le but de toutes nos prières, frères et sœurs. Peu importe le genre de prière que nous faisons, ça devrait être le but de toutes nos prières. Ce qui préoccupe Daniel, c'est que le Seigneur Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, quand on a un péché dans nos vies, qu'on vient de le confesser, ça glorifie Dieu. Enfin, son enfant s'humilie, il se présente devant son maître, il se présente devant le maître du monde, le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et le Seigneur est glorifié. Parce que les bénédictions qu'il retenait pour son enfant, parce qu'il vivait dans le péché, eh bien, il peut lui redistribuer ses bénédictions. Mais en toute chose, en tout ce que nous faisons, peu importe le thème de notre prière, le but doit être de glorifier Dieu. Et c'est ce que Daniel avait compris à son époque. Le temple et la nation d'Israël étaient reconnus comme faisant partie intégrante du peuple de Dieu et il voulait que ça se rétablisse. Pourquoi? Pas parce que le temple était magnifique pour lui, pas parce que le temple était le peuple élu de Dieu, mais parce que Dieu se glorifierait en mettant en place ce qu'il avait prédit des siècles avant. Tout ce que Daniel visait, c'était la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que c'est une leçon pour nous dans nos prières, pour prier dorénavant. Faire en sorte que toutes nos prières puisse viser à glorifier le Seigneur. À glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, quand on prie pour le salut de nos enfants, ce n'est pas juste parce qu'on a une grande compassion pour eux, c'est parce qu'on sait que s'ils se convertissent, c'est grâce à Dieu et que ça va glorifier Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une conversion, eh bien, il y a un miracle qui se produit. Il y a une nouvelle naissance qui se produit. Et Dieu se glorifie. Amen. Sinon, c'est moi qui se glorifie, c'est Jacques Hudon avec ses méthodes, ses techniques qui amènent les gens au Seigneur. Et ça, Dieu a ça en horreur. Mais dans toute chose, on doit chercher à faire en sorte que Dieu se glorifie. Et vous savez que si on voit ce domaine-là, si on se rappelle que Dieu doit être glorifié en toute chose, non seulement on va arrêter de se limiter trop souvent à prier pour la conversion de nos enfants, mais on va étendre cela à la conversion de ceux qui habitent dans ce monde et qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que Dieu va nous rappeler que dans son amour, il aime tout le monde d'une façon égale. Et qu'il veut se glorifier en voyant des gens venir à la repentance et au salut. Amen. Daniel demandait à Dieu de se glorifier en restaurant encore une fois le temple et le peuple. Daniel pouvait avoir confiance dans ce qu'il demandait à Dieu, car ce qu'il disait était basé sur ce que Dieu avait déjà révélé dans les Écritures. Et quand vous regardez la prière de Daniel, frères et sœurs, vous vous demandez premièrement pourquoi il a prié. Parce qu'il a prié en fonction des prophéties qui avaient déjà été annoncées. Donc, vu qu'il croit en Dieu, il était convaincu que les prophéties se réaliseraient. Mais il prie, sa prière, elle est basée, les 70 ans, c'est basé sur une prophétie que Dieu avait faite et tout le reste. J'ai déjà fait remarquer que même si Jérémie avait prophétisé que le pays serait laissé à lui-même pendant 70 ans, il avait aussi à prophétiser que le Seigneur accomplirait ce qu'il avait dit et qu'il ramènerait son peuple à Jérusalem. Voilà pourquoi Daniel prie aussi. Seigneur, c'est vrai que tu avais averti le peuple. C'est vrai que si il ne se détournait pas de ses voies, eh bien, pendant 70 ans, il serait envoyé en exil. Mais Seigneur, tu as aussi promis qu'un jour, après les 70 ans, tu les ramènerais. Et quand il lit le rouleau, quand il lit le manuscrit qu'il a dans les mains, Jérémie, hein, parce qu'on sait pourquoi c'est Jérémie, puisqu'il cite les versets de Jérémie, eh bien, il savait, en lisant le prophète Jérémie, en calculant le nombre d'années que les Juifs étaient à Babylone, il savait que ça faisait 70 ans, il savait que l'heure de la délivrance arriverait. Et frères et sœurs, c'est une bonne indication pour nous aussi, pour essayer de voir à quel moment le Seigneur Jésus va revenir. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour, mais Jésus nous a donné des signes. Il nous a donné des signes. Notre frère Salvatore de Cavalieri va sûrement me soutenir dans ça. Là, il y a une prophétie biblique qui dit que Dieu, avant le retour de Jésus, va rassembler tous les peuples de la terre autour d'Israël. Ils sont presque tous là. Les grandes armées, les grandes puissances sont presque toutes là. Les Chinois sont là, les Russes sont là, les Iraniens sont là, les Turcs sont là. Maintenant, les Américains viennent de s'installer là-bas. Les Anglais sont là. Frères et sœurs, on est en train de vivre les prophéties des derniers temps. Je ne peux pas vous donner une date, je ne peux pas vous donner l'heure, mais on a des signes. Et les signes ne sont parce qu'on sait où on s'en va, parce qu'on sait où on va passer l'éternité, bien, plutôt que de nous faire peur, il nous encourage. Parce qu'on sait que quand le Seigneur va revenir, la misère sur la terre, c'est terminé. Et qu'on va rentrer dans la gloire pour l'éternité. Bien que nous ne puissions pas prier pour la Belgique comme Daniel l'a fait pour Israël, nous pouvons quand même prier en ayant le même esprit qu'il avait, afin que Dieu soit aussi glorifié dans ce pays dans lequel nous vivons. Nous savons que la Belgique n'est pas le peuple choisi par Dieu, mais nous pouvons intercéder auprès de Dieu avec humilité et implorer sa miséricorde pour ce pays, et plus particulièrement qu'il étende sa main sur ceux qui lui appartiennent dans ce pays. Une telle prière pour cette nation ressemblerait à ceci. Seigneur notre Dieu, à cause de ta justice, même si nous avons péché contre toi, nous nous présentons devant toi avec humilité pour te faire une demande. Nous reconnaissons non seulement notre pauvreté d'esprit, mais que nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes, par nous-mêmes, et que nous ne pouvons accomplir que ce que tu jugeras bon de faire à travers nous pour ta gloire. Seigneur, nous te demandons d'écouter notre supplication et que tu te glorifies dans ce pays et à travers ces gens. Nous te demandons pas cela pour la gloire ou pour l'importance qui pourrait être donnée à ce pays ou à une personne quelconque, mais plutôt pour que ton nom soit glorifié dans ce pays. Secoue ton peuple qui appartient à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Produis en lui ta sainteté. Suscite en lui de mener une vie juste. Encourage-le à proclamer ton nom ouvertement et ton évangile à tout citoyen de ce pays. Seigneur, écoute, pardonne et agis. Père, envoie un réveil qui secourra ce pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est pour l'amour de ton nom, Seigneur, que je t'ai prié. Ne tarde pas et agis afin que ton nom soit glorifié. Frères et sœurs, la prière de Daniel est un bel exemple de quelqu'un qui est animé par un véritable esprit de prière, car elle prenait sa source d'inspiration dans les Écritures. Elle se révélait dans la confession et répondait par des supplications. Et dans sa miséricorde et dans sa grâce, Dieu va répondre à la prière de Daniel. Si Dieu répond aux prières de son temps, dans le cas de Daniel, il a répondu rapidement, comme nous pouvons le constater dans les versets 20 à 23. Regardez les dernières paroles de cette prière, 20 et 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché. Il n'avait pas encore terminé de prier. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu en faveur de sa montagne sainte. Je parle encore dans ma prière quand l'ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approche de moi d'un vol rapide. Au moment où l'on offre le sacrifice de l'après-midi, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie. Un message a été prononcé et je viens pour te l'annoncer. Car Dieu t'aime, tu es un bien-aimé de Dieu. Moi, j'aime bien cette expression-là. Frères et sœurs, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Amen. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Peu importe des fois si on prend des chemins tortueux, nous demeurons des bien-aimés de Dieu. Pas à cause de ce que nous avons fait, grâce à ce que Christ a accompli sur la croix pour chacun de nous. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. J'aime bien cette expression-là. Elle n'est pas dans la français courant, mais elle est dans, je pense, dans la Louis II ou la Darby. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner le sens de la vision. Alors, Dieu va envoyer l'ange Gabriel rencontrer Daniel pour lui donner une réponse à sa supplication. Alors, nous ne pouvons ni ne devrions nous attendre à recevoir de telles réponses angéliques suite à nos supplications, car même Daniel, un homme de même niveau que Noé et Job, n'a eu que quelques rencontres avec des anges. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu réponde à nos prières conformément à sa volonté. Jean écrit ceci dans sa première épître au chapitre 5, les versets 14 et 15. Voici pourquoi nous avons une pleine assurance devant Dieu. Nous savons qu'il nous écoutera si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Comment savons-nous si quelque chose que nous demandons est conforme à sa volonté? C'est en ayant lu les Écritures. L'un ne va pas sans l'autre. Ainsi, comme nous savons qu'il nous écoute quand nous lui présentons une demande, nous savons aussi qu'il nous accorde ce que nous lui demandons, puisque c'est conforme à sa volonté. Il y a trois raisons pour qu'une prière reste sans réponse, et Jacques nous révèle deux de ces trois raisons. Dans les versets 2 et 3 du chapitre 4 de son épître, il nous dit « Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. » Verset 3 « Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. » Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Frères et sœurs, on est d'accord avec ça. On ne peut pas s'attendre à recevoir une réponse à une prière que nous n'avons pas faite à Dieu. Et nous ne pouvons pas nous attendre à voir Dieu répondre à notre prière si ce que nous voulons, c'est pour satisfaire nos propres désirs égoïstes et non la volonté de Dieu. La troisième raison, c'est simplement parce que nous ne voulons pas reconnaître qu'une réponse de Dieu puisse être « non » ou « j'attends ». Ça va pour ça? On veut tellement que Dieu réponde oui, que quand il nous montre clairement que c'est non, ben on n'accepte pas. On se dit, Dieu ne m'a pas répondu. Et quand Dieu ne répond ni oui ni non, et qu'il attend, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, je pourrais te bénir aujourd'hui, mais je vais attendre parce que si tu es assez patient pour attendre, la bénédiction que je vais t'accorder plus tard va être encore supérieure à celle que je voudrais te donner aujourd'hui. C'est motivant, ça, non? C'est édifiant. L'exemple de Daniel, c'est que sa prière trouve sa source d'inspiration dans les Écritures, qu'elle est exprimée dans la confession et par des supplications. Cette prière recevra une réponse. Frères et sœurs, pouvons-nous comparer notre vie de prière avec celle de Daniel? Sommes-nous conscients que lorsque nous lisons et étudions les Écritures, c'est pour nous-mêmes? Sommes-nous encouragés à prier en utilisant la Bible, et ça avec un esprit de prière? Vos prières se caractérisent-elles par une confession qui inclut à la fois l'adoration et la reconnaissance de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait dans votre vie? Frères et sœurs, est-ce que vous trouvez, est-ce que je trouve le temps pour intercéder pour mon Église, pour votre Église et pour les membres qui en font partie? La confession de David dans le psaume 51 est un autre bel exemple de prière pour nous. Venons-nous à Dieu animés d'un esprit d'humilité lorsque nous nous faisons part de nos demandes? Est-ce que nos supplications correspondent plus à une liste qui ressemble non seulement à celle que nous adressions Père Noël quand nous étions petits, mais à une liste dans laquelle nous exigeons ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous? La prière qui plaît à Dieu reçoit une réponse parce qu'elle est adressée à Dieu dans un esprit d'humilité et parce qu'elle est conforme à sa volonté. Ma prière, c'est que nous recevions tous des réponses de Dieu et qu'il agisse puissamment au milieu de nous pour accomplir sa volonté à travers nous qui sommes ses humbles serviteurs, comme ce fut le cas pour Daniel. M. Barnes a décrit dans son livre « Les armes de la prière » que rien n'est plus important pour Dieu que de s'occuper de sa créature et de voir son enfant prier. « Celui qui commet l'erreur de ne pas prier, dit-il, ne remportera aucune victoire dans sa vie, parce que c'est à travers la prière que Dieu agit. Par conséquent, celui qui ne prie pas se prive lui-même de l'aide que Dieu peut et veut lui apporter. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas posséder plus de nouvelles techniques, ni de mettre sur pied de nouvelles organisations, ni de nouvelles méthodes. Ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est des hommes que le Saint-Esprit peut utiliser, des hommes qui prient et permettent à Dieu d'agir avec puissance à travers eux. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas à travers des méthodes, mais à travers des hommes. Il ne se manifeste pas à partir de nouvelles techniques, mais à travers des hommes. Il ne bénit pas des projets, mais des hommes, particulièrement des hommes de prière. Que Dieu fasse lever dans cette Église une armée d'hommes et de femmes qui prient pour qu'ils soient glorifiés en toutes choses. Amen. J'invite à vous lever. Nous allons chanter un dernier cantique.